injection site, it was pretty, there was this unspoken consensus that it was just okay. People were more relieved about the idea that there was something legal going on than something illegal going on that poor people were running for themselves.
Yeah, that's it. Frédéric, ici à Montréal, je voulais savoir, toi, la façon dont tu juges l'attitude des médias en traitement, dans le traitement de la toxicomanie chez les jeunes, est-ce que ce n'est pas toujours un peu sensationnel, et est-ce que ça vient nuire au travail que vous faites?
Si ça vient nuire, je pourrais pas dire. Par contre, selon moi, le rôle du mass-média, c'est le sensationnalisme. C'est normal qu'ils se nourrissent à même ça, donc... quelque part, ils n'ont pas le choix de présenter cet aspect-là de la toxicomanie ou de la vie dehors, là, dans la rue. Par contre, certains médias peut-être plus crédibles, parce qu'ici à Montréal, on a une situation particulière d'avoir des médias un peu plus à potin, si on veut, quand je parle du Journal de Montréal, ou si on voit des articles qui se font peut-être dans la presse, qui déjà sont un peu plus intéressants, ou même dans Le Devoir, qui font des articles, ou... parce que quand on parle, je pense, de la toxicomanie en surface, on en fait du sensationnalisme. Puis une fois qu'on commence à gratter, eh bien là, ça devient plus informatif. Donc, une fois qu'on commence à aller plus en profondeur dans la toxicomanie, on amène plus d'informations. Donc, là, le média devient plus crédible, mais il n'y en a pas beaucoup qui se permettent de faire ça, par contre. C'est plus mon opinion, moi, de ce qui se passe à Montréal. C'est sûr qu'il y a des journaux communautaires, comme que ce soit l'Itinéraire ou le Journal Réfait de Société, Journal de la rue, où la toxicomanie va être amenée comme une chose, une dimension plus humaine et moins comme... on ne présentera pas les toxicomanes comme des personnes qui sont déchues ou des déchets de la société qui sont plus bons. On va les ramener dans un contexte plus humain où ils sont humains à part entière, donc avec vraiment des valeurs, des émotions. En tout cas, bref.
Is Linda there? Linda? From Our Voice? No, she's not there. OK. Je vais y aller avec ma prochaine question tout de suite. En fait, c'est à savoir, est-ce que de toute façon, on n'a pas besoin de médias qui font justement du sensationnalisme pour faire avancer des causes? My question, Jill, is don't we need mass media to do shocking reports and shocking having shocking images just to make this issue go forward into the population? I mean, just to alert the way it's going on with drugs in youngsters or women or into the population in general. Don't we need that, Jill?
It's sort of a question of, like, is any coverage good coverage get the noise out there that something's happening or that it's an issue that people need to address? I mean, I guess that's a matter of opinion. I think insofar that none of us can really control how mass media is going to portray anything. We just kind of have to throw our hands up and do what we do and hold press conferences or actions or what have you. And then it just gets covered how it gets covered. And I think to some degree that you're right. Like, it starts some kind of public debate about it. But I think it's not necessarily the most important aspect of advancing the cause or getting the message out there. There's plenty of ways that... for example, safe injection sites or harm reduction got to be a really big issue in Vancouver without press coverage, right? And that's a lot to do with just what was happening, and just the concentration of poverty and drug addiction in Vancouver it still is at a point of just such high visibility that people can't ignore it. So whether it's on the front page of the Vancouver Sun or the Globe and Mail or whatever or not, it really kind of doesn't necessarily affect that at some point, because it's just becomes this imperative thing. The other thing that happened in Vancouver was that there was an election campaign that centered a lot around safe injection sites and harm reduction, so that played out in the media as well a lot. It's hard to say. When it comes down to it, whose interests are the ones who are maintained at the end of the day by the media coverage? Like, still from the beginning to the end of the coverage of the safe injection site stuff, I don't think there was any, there still hasn't been like a really comprehensive look in the mass media at what harm reduction is, how a safe injection site fits into a sort of spectrum of harm reduction initiatives, and what are the real issues that are affecting people in the downtown east side. And what are the real reasons why people need a safe injection site, for example? Mm-hmm. So still, none of that has been addressed. We've gotten a safe injection site. It's got its problems, but people are using it. And I don't know. It's sort of an argument that brings us into a game of sort of fighting for concessions,
yeah.
Which if that's what people are engaged in, then that's okay, right? But overall, like, I don't think it does any huge favors to depend solely on mass media,
yeah.
And any coverage that they put out there as being the way that your message is getting out to the public.
Mm, yeah. Louise, José, je vais te poser la question. Au niveau de la toxicomanie chez les femmes sans domicile fixe ou chez les femmes qui sont dans le besoin, est-ce qu'il y a des informations ou des données qu'on ne reçoit pas par les médias et que finalement on aurait besoin de savoir pour essayer d'améliorer la situation des femmes sans domicile fixe?
Ben, ce qui n'est pas dévoilé, c'est surtout la quantité de plus en plus grande. On dévoile pas qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la rue qui vivent l'itinérance, de beaucoup, beaucoup plus jeunes aussi au niveau de la toxicomanie, autant chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. Là. Il y a de plus en plus une population grandissante au niveau de la toxicomanie. Puis à ce niveau-là, c'est comme si à quelque part, la dame disait, il n'y a pas de mauvaise couverture. Là.
Oui.
Il y a des gens de tous les niveaux pour tous les journaux. Sauf que parfois, ça devient comme banalisé. On dédramatise, oui, mais on banalise. Fait que le regard se détourne du titre, puis on n'accroche plus à certains
oui.
titres là, pour nous évoquer qu'est-ce qu'on est en train de vivre au niveau de notre société. Puis comme les jeunes ont besoin de place et de ressources, ça, c'est ce qui nous manque, tu sais, qui est mal dévoilé dans les journaux.
Oui.
Les ressources pour aider ces gens-là sont mal dévoilées. Il nous manque, c'est pas seulement de dire, OK, on fait des dons, mais c'est d'aider aussi, des fois, dans notre propre quartier, de regarder qu'est-ce qui se fait, est-ce que je peux venir en aide dans mon quartier. C'est pas seulement à Montréal, là. Il y en a dans les régions, les banlieues. Le problème de toxicomanie est de plus en plus fort dans les banlieues. On n'en parle pas parce que c'est des quartiers plus cousus, mais on retrouve ces jeunes-là après ici à Montréal.
Oui. Frédéric, dis-moi, toi, la toxicomanie chez les jeunes, qu'est-ce que ça représente comme problème, ça, chez les jeunes avec lesquels vous travaillez?
Ça représente comme problème.
Est-ce que c'est un gros problème chez les jeunes avec la population des jeunes avec lesquels vous travaillez?
J'aime pas parler de la toxicomanie comme étant un problème.
Non.
Je pense pas que ça soit un problème en tant que tel.
Okay.
C'est sûr que ça peut devenir problématique si la consommation n'est pas contrôlée. Encore une fois, là, ça amène un débat. Est-ce qu'on peut contrôler une consommation? Est-ce qu'on peut contrôler sa dépendance? Bon, ça, c'est un autre débat, mais c'est sûr que beaucoup de jeunes consomment. Les jeunes avec qui je travaille consomment tous. Régulièrement, donc ils sont peut-être des surconsommateurs de drogue, principalement de marijuana. C'est sûr que je suis en contact aussi avec des UDI, des utilisateurs de drogue injectable aussi régulièrement. Est-ce qu'eux consomment tous aussi? Je veux dire, ben oui, beaucoup n'ont pas de contrôle sur cette consommation-là. C'est sûr que là, on emmène un autre step, mais donc, ben, c'est pas un problème en tant que tel. Mais pour en revenir à la question, parce que je trouvais ce que madame disait, c'est très intéressant. Qu'effectivement, la couverture médiatique va se faire beaucoup sur la problématique qui se passe. Donc, les gens, ils vont fixer ça comme un problème. Donc, c'est l'aspect plus coercitif de la société. Donc, la toxicomanie, c'est mauvais. Donc, il faut réprimer la toxicomanie. Et puis, les médias, c'est sûr, embarquent dans ce jeu-là. Et donc, si je prends l'exemple d'il y a 2 ans dans le Journal de Montréal, une petite fille s'était piquée sur une seringue dans une école. Et puis là, pendant 4 jours, la petite fille, la seringue, 10 000 seringues trouvées par année dans les rues de Montréal, écœurant, incroyable. Mais il y a un travail qui a été fait par un organisme dans le quartier, dans la Dopamine, qui ont fait un travail de sensibilisation dans cette école-là. Donc, pendant une semaine, ils ont été allés dans toutes les classes faire de la prévention avec les enfants pour savoir quoi faire quand on se fait piquer par des seringues. Ça a été tenu sous silence. Puis c'est un peu l'aspect qui est déplorable dans le sens dans la couverture médiatique. Justement, on ne parlera pas des bons coups. On va parler tout le temps des mauvais coups, des choses dégueulasses qui vont se passer. Ah, c'est écœurant, il faut réagir. Mais les bonnes choses, les ressources, comme on disait justement, ne sont pas mentionnées. Les interventions ne sont pas mentionnées non plus ou très peu. Un mince entrefilet. Donc, ça vient particulier.
On va noircir le toxicomane. Ouais. En partant, il est noirci.
Okay, just to say in English what's being said now here, it's because medias are talking about only the sensational aspect of toxicomany. I mean, like an example was brought saying that two years ago here in Montreal, there was this a little girl that was piqué, comment on dit?
That walked on a syringe, yeah. Like in a.
Okay, she walked on a syringe, and now the media's have been talking about that for four, five days, and then after there was an organism here in Montreal that was going into this the school where she was studying and making to sensibilize the students and the teachers and everybody about this this aspect of drugs and everything, and this was just to help youngsters just to be aware about drugs and everything, and not the media's did not talk about that. So the media's are only using the sensational problems and what can I say else about they make a big fuss about that instead of talking about the good. How do you say the bon coup?
Well, they start off as treating it as a big problem instead of seeing it as more of a global issue.
Yeah, that's it. Thanks. Well, concerning the way media is, again, because that's what we're talking here. Je vais poser ma question en français pour commencer et pour dire jusqu'à quel point est-ce que les médias sont influencés par la campagne de guerre à la drogue. Qui est entre autres menée aux États-Unis. Est-ce que nous, ici au Canada, on est concernés par cette guerre à la drogue vers la répression plutôt que vers, essayer de faire qu'on puisse soutenir les personnes qui sont toxicomanes? My question is, how much we are influenced by the war to drugs into the United States, and how the media's are influenced by this this way of confronting the drugs usage into the population. What do you think about that, Jill? Do our media's are influenced by this war on drugs generalized into the United States and here in Canada? Are we susceptible to be concerned about this war on drugs?
Absolutely.
Yeah?
I mean, I think the media have always been one of the greatest weapons, the war on drugs, on behalf of either the American or Canadian government. Obviously, there's cultural and like political differences in how people are approaching or executing the war on drugs between America and Canada, and I think that we'd like to give ourselves a lot more credit than is actually due in terms of like what the real differences are in terms of approach or how people perceive drug use and drug addiction when it comes down to it, or people's analysis of like the international war on drugs and that drug war is like an imperialist war.
Yeah.
So how that plays out in the media and does that affect people? I think absolutely, and I think a lot of people who are doing work in harm reduction or whatever have had the experience of growing up or just being exposed to a lot of that media. It's people have to go through a process, I think, of unlearning that.
Yeah.
And still, even with the coverage of harm reduction initiatives, it's still with this really, like, I think the media coverage of it is really careful not to offend or not to offend too much the sensibilities of American partners or corporations or who are doing business in America or like who have interests in attracting American business, right? Like the Vancouver Board of Trade, for example, was really not in favor of any kind of harm reduction initiatives, especially because it would harm our business interests with the U.S. So as long as we maintain those kinds of ties or are still participating in the American sort of imperialist war, then yeah, sure, we're participating in war on drugs, and that's going to be reflected in the media and the media coverage of drug use, harm reduction, and any other related issues.
Yeah. Before giving the bringing the question to Frederic and Louis-José. I would like to just to repeat the phone number for people if they want to contact us and give us share their opinion about what's going on into the media concerning drugs and addiction and the way the media are bringing it to, into the population. It's the 1-866-763-4136. So call us and give us your opinion about what's going on, or the way medias are bringing the drugs into the general population. Alors téléphonez-nous au 1-866-763-4136 et si vous avez une opinion sur la façon dont les médias travaillent avec l'aspect de la toxicomanie chez les personnes sans abri et aussi de la toxicomanie en général, venez partager votre opinion avec ça. Nous on commence à être gelés ici à Montréal, hein. Il fait vraiment vraiment froid, on est en train d'avoir les lèvres qui sont en train de se figer sur place. Quelle est pour toi, Louis-José et Frédéric, quelles sont pour vous la façon dont la guerre sur les drogues qui est menée aux États-Unis nous affecte ici à Montréal et affecte la population qui est prise avec ce problème de la toxicomanie?
Ben, Frédéric? Naturellement, c'est sûr qu'il y a une espèce de soumission politique du Canada envers les États-Unis qui est indéniable, que ce soit en n'importe quel secteur, là, que ce soit économique, politique, même sociale, d'une certaine façon. Je crois que le Canada peut se vanter d'avoir des politiques sociales un peu plus avant-gardistes, ou du moins un peu plus établies qu'aux États-Unis.
Donc, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, on entendait
plus près de la société, ce qui amène un aspect intéressant. Par contre, c'est sûr qu'on est soumis à cette guerre contre la drogue. Puis ça amène un phénomène de société, effectivement, dans les médias qui vont être reflétés, comme Jill parlait tantôt, qui va être reflété par les médias. Les médias sont la porte-parole du pouvoir, d'une certaine façon. Donc,
de la loi.
Même juste la question que tu m'as posée, que tu disais, est-ce que c'est une problématique? Ouais. Ça rentre tellement dans la tête des gens que la toxicomanie est une problématique et qu'il faut qu'on change ça, il faut régler le problème. Donc, c'est là... Est-ce que c'est ça découle directement des États-Unis? Je ne penserais pas.
Ouais.
C'est sûr que c'est une mentalité qui est chez beaucoup de gens parce qu'on voit les gens se détruire avec la drogue aussi. Donc, on se dit qu'il faut mettre un terme à ça. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas les laisser continuer à se détruire. Se détruire, ce qui est tout à fait humaniste comme façon de voir les choses. Mais d'un autre côté, il y a la police qui a ralenti tantôt pour s'arrêter de voir ce qui se passait ici.
On l'a vu, la police.
Donc, il y a une espèce de répression. Peut-être qu'on dit qu'on est dans un quartier quand même assez intéressant à Montréal. Là, c'est sûr que l'intervention policière est très influencée par la guerre qui se mène contre la drogue. Il y a des enjeux monétaires là-dedans qui sont incroyables, qui n'ont aucun intérêt non plus à cesser la guerre contre la drogue, justement pour ces enjeux-là, pour tous les législateurs, pour tous les policiers, pour tous les emplois que ça crée. C'est nécessaire pour eux de conserver cette lutte-là.
Oui. Louis-José?
Souvent, on ne parle pas non plus d'un des acteurs en coulisses, les grosses pharmacologies qui ne sont pas intéressées à ce que certaines drogues soient décriminalisées. On fait juste prendre ce qui s'est passé ici. On s'est fait rapidement taper sur les doigts par les titres qu'on parlait des journaux, comme quoi déjà les Américains venaient nous dire ici, faites attention à ce que vous allez faire parce que nous, on n'est pas d'accord avec ça.
Oui, c'est
fait
ça.
Que, c'était déjà rien qu'un projet.
Ouais.
Fait que, quand on regarde la population carcérale, je pense qu'il y a un bon 80% qui s'y retrouve par rapport aux drogues. Alors, c'est une grosse business, là. Je pense que quelque part, c'est plus l'argent qui mène à ce niveau-là, au niveau de notre relation avec les Américains, je dirais, moi, au niveau de des drogues, la guerre des drogues.
Okay. Linda, I think Linda is back.
Yeah, I'm here.
Hello, Linda.
Yeah.
We lost you for a long time. We're talking about the way Canada is influenced by the war on drugs that is going on into the United States. Tell us what is for you in Edmonton. What do you see about what's going on concerning the impact of the war on drugs? Driven into the United States, here in Canada and in Edmonton, how do you think about that? Does it has an influence about the impact of homeless people in Edmonton?
Well, it definitely does, because I find that in the media, whenever the media seems to be covering homeless people, the ones that are always shown on the television, even on that CBC special they had. Homeless people are mostly portrayed as, drug users or alcoholics.
Yeah.
And this, of course, influences the way in which the population or general population views homelessness as something that is separate from them. And so rather than being sympathetic to homeless people, you think, well, these are people that are, like, different and that it's their own fault that they're homeless. And so this has a real impact on anything being done about homelessness.
Yeah,
As long as you can think it's the person's own fault that they're homeless,
yeah,
then you're not as likely to do something to help them.
Yeah, that you are talking about that, and this was my next question is about what is the impact of the way what is the impact of homeless people about the way medias are talking about addictions, that showing that homeless people are, as you say, always, drug users, alcoholic, whatever. And how does this influence the work you all people here on the panel how is your work influenced by this? How do you say in English? Comment on dit en anglais?
Stereotype, yeah.
Yes, yeah. Into the population.
Yeah.
How does this influence your work and your struggles? I mean, does it get it worse, or is it more difficult to try to get this issue worked over? Sorry for my English.
Were you Frederic? Asking me?
Yes.
It definitely makes it more difficult because if people who are homeless are seen as people who are homeless because it's their own fault, because they're mm-hmm. addicted to drugs, or because they're alcoholics, or mm-hmm. or because or because they're mentally ill, then it to the average person, that maybe could do something about it, thinks, well, this could never happen to me. And they become sort of a subgroup or mm-hmm. subculture that's distanced from, and it makes it more difficult for there to be a real concern about homelessness.
Yeah.
Yeah.
So maybe people, maybe people are getting afraid about what's going on into the streets and everything. Frédéric, est-ce que tu penses que la façon dont les médias travaillent, ça fait que les préjugés qui sont véhiculés dans la population font que le travail que vous faites est beaucoup plus difficile?
Ce travail est plus difficile, je croirais pas. Par contre, il y a définitivement une marginalisation de la population itinérante ou même toxicomane. Chez les médias, il n'y a pas, par contre, ça ne rend pas ça plus difficile au niveau de l'intervention humaine. Dans mon travail, moi, en tant que travailleur de rue, c'est en contact direct avec les gens, donc c'est pas difficile de rentrer en contact avec les gens. Au niveau humain, ça reste tout le temps la même chose. Je veux dire, autant que je rentre en contact avec toi, que je peux rentrer en contact avec n'importe qui est dans la rue, donc ça n'a aucune différence. Par contre, ça les marginalise. Est-ce que ça rend le contact, est-ce que ça rend leur accès plus difficile aux autres couches de la société? Oui, parce qu'il y a une marginalisation. Mais pour mon travail, à moi, ça change absolument rien. Okay.
Louis-José, est-ce que tu crois que finalement, la façon dont les médias amènent ça dans la population, ça crée une certaine peur, une certaine crainte de la population et qui fait que effectivement, c'est plus difficile d'aider ces personnes sans abri?
Oui, moi, je crois, oui. Je crois qu'au niveau... parce que certains, ça ramène les croyances. Là, on tombe en face des mentalités. Fait que là, on doit travailler des fois encore plus fort pour nous, pour aider ces personnes-là à traverser eux autres même cette barrière-là pour justement traverser, comme Frédéric dirait, c'est comme si c'était à quelque part une sous-culture mm-hmm. qu'on... Oui, c'est à quel point ils sont marginalisés par rapport à leur vie, leur moyen de vivre, puis leur... mais en même temps, ça les met en même temps à côté de nous, alors que c'est des parties intégrantes de notre... De notre culture.
What is being said here is that the way medias are bringing this topic into the population, it's marginalized, or can we say that?
Yeah,
marginalized. Those people, and so it's more difficult to help them than and to bring them to go for further with the how do you say farther, plus
further,
loin dans
yeah.
sa vie, further in, yeah. into their life. If the medias are not bringing the reality of what's going on into about drugs, what is the reality? What should media say to help those people? What do they not say?
What are they not saying?
What are they not saying and yeah. they should say?
They should be saying.
Should be saying yeah. For to help the situation. Jill, are you there?
Yeah, I'm here, but I
did you understand
really
my question?
Huh? I didn't really hear anything you said.
Okay, I said that. Okay, if what the medias are bringing to the population is not the real thing. So what is the real thing, and what should they be saying to people so that could help you work with those people and make this problem get better? I mean,
right. Well, I mean that's a pretty big question between what should the mass media be saying and what would the mass media say. You know, the drug war is a class war. The people that they're portraying are poor people, and they're doing their best to vilify poor people at every turn, whether they're homeless and or drug addicted and or mentally ill. So I'm not quite sure how to answer that question, how the mass media could help us do our work. If there was any way that mass media could somehow put forth the analysis around drug addiction and where it comes from, how it's perpetuated, and their own role in that perpetuation, then if I had any faith that that could happen, that's probably what I would suggest. But beyond that, I'm not quite sure what role the mass media could play in helping anybody do the work that they do around the poverty issues or issues of addiction.
OK. We have Frédéric here who wants to say. Yes, Frédéric.
C'est par rapport à qu'est-ce que les médias devraient apporter.
Oui.
Moi, j'ai un exemple intéressant. Qu'est-ce que les médias pourraient faire pour amener ça en même temps sans nuire à leur rôle de mass média, c'est de dénoncer des situations sociales où justement les toxicomanes ont perdu leur valeur humaine. Je pense justement à un article qui est paru dans la presse, mais il y a une série d'articles, dont un en particulier sur comment les toxicomanes étaient traités dans les hôpitaux, donc comme des déchets, puis qu'on les renvoyait, puis que la personne avait une gangrène sur son bras, puis on mettait un petit plaster, puis c'est fini, puis qu'elle fait le carton un mois après, ou sinon, parce qu'elle risquait l'amputation. Puis les médecins étaient « Ah, un toxicomane, on ne travaille pas avec ça parce qu'on dans le fond, il n'y a rien à faire. » Donc, c'est un problème social, ça, justement, l'accueil des toxicomanes dans les hôpitaux ou des gens en général. Donc, il faut un peu dénoncer ça.
OK.
Le média ne perd pas son rôle de dénonciation, de représentation des valeurs de la société, d'une certaine façon, société de masse, mais en même temps, replace le toxicomane dans sa juste valeur humaine aussi, en tant que personne, individu, qui a besoin d'aide.
What Frederick just said is that the mass media should be more human in the way they treat and this topic and that there was some problem here in Montreal concerning drug users going into the hospitals being maltraité, en fait, not good. I did not have a
good treatment.
Well, I think it's we are done. No, not yet.
Yeah, we're almost done here.
Yeah, we are almost done. So, well, thanks a lot for being here, Louise José.
Thank you.
From La Rue des Femmes, Frédéric Galbrun de Journal de la Rue, qui s'appelle maintenant.
Le reflet de société.
Merci. Thanks to Jill from Vendu and Linda Dumont from Our Voice. Are you still there?
Yeah. Okay. Oh, yeah. Thank
Thanks
you.
A lot for being here. We've been very. It was very great to have you all on this panel about talking about the way medias are bringing into the drug addiction and into the medias and. Alerting people, maybe too much.
Okay.
Thanks a lot.
Okay, thanks.
Merci, Jill. Merci, Linda.
Merci. Bye.
Okay.
That's it?
You're still listening to the Homelessness Marathon in Montreal on CKUT 90.3 FM. Now, we will be turning to an open mic, which is taking place in Café sur la Rue. And here we go. I'm transferring over to you the other room and the open mic.
So if you have any comment and if you want to come and say and share your opinions and your feel free to call us at 1-866